Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un programme aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que, comme c'est une fois tous les, je ne sais pas, tous les 5, tous les 5 ans, tous les 4 ans, on a le plaisir d'avoir Monsieur Fall avec nous dans Silence on joue. Et à ce moment-là, moi je me dis, est-ce que c'est utile d'avoir un programme? On pourrait discuter pendant une heure, parler des bons souvenirs.
On est quand même sur une émission très structurée, qui a toujours un programme. Ouais. Bien,
bon, donc au programme cette semaine, on va parler de Wipeout Omega Collection. On va parler de Friday the 13th, The Game. Pour dire le nom complet. Vendredi 13, le jeu. Et puis, on parlera aussi, évidemment, de jeux de société, de jeux de plateau, avec un de mes chroniqueurs favoris, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, Monsieur Ewan. Ouais, je suis content, parce que, en général, je ne suis pas favori, parce que je ne suis jamais là. Je suis favori 3 fois sur 10 ans, et ça me fait plaisir.
Et Patrick Elio, bonjour, Patrick.
Bonjour, Ewan.
On commence avec toi, Patrick.
Oui, eh ben oui, on va commencer avec moi.
Normalement, je dis, et puis le reste du programme, vous connaissez le com des coms, Monsieur Fall. Mais bon, là, du coup, en fait,
pas s'écarter des habitudes. Eh ben, ça y est, moi, j'ai une bonne nouvelle. Salut, Léo Mar va enfin avoir un héritier. Là, tout de suite, vous comprenez de quoi je parle.
Évidemment,
je vous parle de cette sitcom des années 80 qui était une série télé française interactive. C'est-à-dire qu'on ne vous rappelait pas du tout, fin des années 80.
Ça a été
un peu oublié. Je rappelle un petit peu le principe. C'était donc une série télévisée qui était hebdomadaire. Et à la fin de chaque épisode, les spectateurs étaient appelés à voter par téléphone ou Minitel à l'époque pour choisir une des deux possibilités qui étaient offertes en termes de scénario. Et donc, la série se structurait comme ça toutes les semaines selon les choix des spectateurs. Donc pourquoi jouer? Oui, c'était. Après, j'en ai des souvenirs assez lointains. J'avoue que. Et en fait, il y a très peu de traces, il y a très peu de choses qui sont restées de cette série qui était quand même assez pionnière dans son domaine puisque c'était une série télé interactive. C'était nouveau, c'était à la fin des années 80. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que Netflix, dont j'avais déjà parlé. On sait que Netflix s'intéresse aux jeux vidéo. On avait parlé il y a quelques semaines d'une série Castlevania, une série animée. Il y avait eu des choses avec Skylanders aussi. Et là, ça y est, on sent que Netflix continue à s'intéresser de plus en plus aux jeux vidéo puisque, en fait, le groupe Netflix lance une série interactive avec des choix multiples qui sont possibles pendant la diffusion. Alors en fait le premier test, ça c'est une série qui vient de se lancer qui tourne autour du personnage du chat dans Shrek. Je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage. En fait, donc c'est une mini-série donc, qui est plutôt orientée pour les enfants et en fait qui est interactive, dans laquelle les enfants peuvent faire des choix multiples pendant la diffusion. Je crois que sur ce premier test, je crois qu'il y a 13 choix différents et deux fins alternatives. Je crois que c'est disponible. Je crois que c'était lancé.
Quand tu dis interagir pendant, c'est pendant le film.
En fait, il y a des choix.
C'est des choix en temps réel.
Donc binaire. Et ce qui est intéressant, donc là, c'est un premier test. On sent que c'est un premier jet plutôt donc pour les enfants. Je crois qu'il y a un autre titre qui est annoncé qui va arriver. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'eux ont le canal Netflix, ils ont ce canal qui leur permet de proposer cette fameuse fiction interactive qu'on attend depuis des années. C'est un peu un serpent
de mer. On a parlé de Late Shift il y a quelques semaines qui était exceptionnel là-dessus.
Voilà, qui lui donc est diffusé via le jeu vidéo, qui est donc une appli, un jeu qu'on achète sur une console sur Steam et qui permet aussi ce genre d'expérience interactive. Là, ce qui est intéressant, c'est que Netflix a son propre canal aussi de diffusion. Alors effectivement, là, on est sur des formats plutôt courts, a priori. J'ai pas essayé, mais le format est plutôt court, plutôt typé enfant, mais on peut se dire qu'effectivement, ils peuvent nous faire demain un Late Shift-like, tourné en live avec des acteurs. Ils peuvent le faire, techniquement.
Late Shift, en fait, on en a parlé il y a quelques semaines. C'est vraiment le film interactif tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 90. D'accord. C'est une sorte d'idéal de film interactif. D'accord. C'est très, très bien, avec des vrais acteurs. Et c'est très bien tourné. Une histoire intéressante.
Voilà, c'était complètement bridé il y a 20 ans par la techno, parce que c'était compressé avec les pieds. C'était moche. C'était sur le CD-ROM qui avait du mal à mouliner. Là, maintenant, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et avec Netflix, voilà, s'ils continuent sur ce genre d'expérimentation, ça peut ouvrir des vraies portes.
Vous êtes le héros. Mais comment les gens décident ? Ils ont un boîtier, ils font ça sur Internet.
C'est avec la télécommande. D'après ce que j'ai compris, c'est que la télécommande, en fait. Hein. C'est gauche-droite. C'est toujours binaire pour l'instant sur ce test. Hein. Ouais. Après, peut-être que c'est. Voilà, si c'est exploré, questionné, ça peut être peut-être plus riche. Ça pourra s'enrichir, éventuellement. En tout cas, pour l'instant, a priori, c'est binaire. Et moi, ça m'a rappelé, évidemment, ce que Telltale avait annoncé, plus ou moins. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Telltale, donc le fameux développeur de jeux d'aventure, avait annoncé il y a quelques temps déjà son concept de super show. Ils appelaient ça de série interactive qui reprendrait leur concept de narration. Mais avec une ampleur de réalisation, avec des capacités plus fortes, plus importantes.
On avait vu un espèce de truc un peu qui ressemblait dans les séries qui étaient l'espèce de série télé qui allait avec Quantum Break. Non, c'est pas.
Alors Quantum Break, lui, il avait une série enchâssée dans le jeu. En fait, c'était des séquences de full motion vidéo qui étaient dans le jeu vidéo. Ouais. C'était encore un cas de figure différent. C'était plus de l'utilisation de la vidéo dans un jeu avec des longues séquences, trop longues d'ailleurs, parce que ça cassait complètement le rythme. Mais voilà, on sent que c'est questionné tout ça. Et je pense que Netflix a vraiment une carte à jouer. On sent que là, ils font un test. C'est pour les enfants, mais je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça devienne beaucoup plus.
Les choix sont imposés à tout le monde. C'est-à-dire que c'est la majorité qui va décider. C'est pas après, tu ne peux pas avoir.
A priori, non, d'après ce que
12 mecs qui ont décidé ça, 8 mecs qui ont décidé ça.
Ah non, mais si, c'est chacun a son propre choix.
Chacun a son histoire. Ah, d'accord.
Oui, c'est pas
un truc imposé.
Il faut que j'essaye. C'est vrai que j'en parle, je ne l'ai pas essayé. Moi, j'ai juste vu. Il faut que j'essaye absolument.
Et alors, c'est fou parce que. Excuse-moi, mais. Tu sais, ce concept de dans la cour de récré, tu parles du film de la veille. Ouais. Bon, ça va, parce que tout le monde a vu le même film avec la même fin. Tu fais comment dans la cour de récré ? Mais t'as vu, il est mort ! Mais non, il est mort !
D'ailleurs, là, on rejoint les discussions des jeux vidéo. Ouais. C'est qu'est-ce que t'as fait, toi ?
C'est ça.
Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'était quoi ton histoire ?
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Tu racontes ton histoire.
Je lisais une interview d'un des responsables de ce projet qui disait que justement, ils ont dû, par exemple, couper un des personnages dans l'écriture parce qu'ils s'étaient rendu compte que selon les différents choix qui étaient mis en place, il apparaissait à un moment et à un autre et c'était pas cohérent. Donc il a fallu qu'il fasse des coupes. On sait que c'est une écriture complètement différente. Enfin, l'écriture interactive, c'est pas simple. Ça demande. En fait, on reprend
Remember
un peu
le sorcier de la montagne de feu.
Ben exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça reprend vraiment le système des livres dont vous êtes le héros.
Ça revient, c'est très tendance.
Ces branches. Alors après, ça reste réduit. Hein, le champ de possibilités reste réduit. Mais bon,
c'est le début.
Ça ouvre une porte. Non, mais ça ouvre une porte. En tout cas, et Netflix peut jouer une carte intéressante là-dessus.
Et Netflix, rappelons-le, est blindé de thunes. Hein,
donc ils ont les moyens de se.
Ils ont les moyens de faire des expérimentations comme ça. Le com des coms de la semaine dernière. Alors, on continue sur ma tendance à ne jamais être très précis dans mes. Et quand une. Donc, en fait, ça a été trouvé par DRX Rave qui a dit la reco d'Erwan est la fabuleuse histoire de la poire géante de Jacob Martin Street chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc je parle le truc que j'ai lu et tout ça, mais je ne me rappelle plus les titres. Mmh. Donc, en fait, les gens, ils trouvent les titres à ma place. Sinon, France Bûche qui nous dit merci pour l'émission, étant fan du premier Shadow Warrior, celui du millénaire dernier. Il faudra que je me penche sur cette nouvelle itération. Je suis tellement reconnaissant à Doom d'avoir redonné ses lettres de noblesse au Fast FPS solo du tout bon. Et sur le 3, il nous dit, venant d'une émission qui chronique un jeu de combat par émission depuis 3 épisodes, je suis surpris de ne pas avoir entendu un seul mot de l'une des sensations de cette 3. J'ai nommé, bien sûr, Dragon Ball FighterZ, le jeu de Arc System Works pour lequel j'aurais été capable de tuer à l'âge de 10 ans. Quelle claque visuelle. En outre, les sachants du jeu de combat sont à peu près unanimes pour dire que le jeu a l'air intéressant sur le fond. L'un des jeux qui m'a le fait le plus rêver pendant cette E3. Évidemment, nous avons dû faire des impasses. Il y a je ne sais pas combien de dizaines de jeux présentés. C'est vrai que...
Il a fait un bon buzz, le Dragon Ball.
Mais parce que...
C'est un fantasme un peu depuis les premiers jeux sur Super NES qui datent de...
Ah oui, de jouer au dessin animé, ce rendu très très énergique, très et là c'est vrai que ce qu'on a vu est plutôt
les
plutôt très
sont
prometteur.
Plutôt bon, enfin tout ce que j'ai lu dessus c'est plutôt bon, donc les
moi je me rappelle bien. Alors je ne sais plus si c'est quel jeu Dragon Ball comme ça auquel j'avais joué, un jeu de baston, mais qui refaisait comme ça tout l'arc de Dragon Ball Z. C'était assez trippant, mais c'était il y a bien longtemps déjà. Je crois que c'était sur PS2.
Il y a eu beaucoup de jeux.
Tonio Mouche, là c'est sur YouTube qui nous nous dit « Petit rectificatif, ce n'est pas le troisième E3 pour Détroit, ce n'est que le deuxième. » J'avais dit que c'était leur troisième E3, car le premier teaser d'annonce a été montré à la Paris Games Week. Et non pas l'E3.
Oui.
Et lui, il nous dit « La préparation d'un E3 demande tellement de boulot, crunch en forfait soir et week-end, que si on en avait fait trois, je pense que je m'en rappellerai. » Donc, il le bosse manifestement chez Quantic.
Ah oui, là, oui,
voilà.
Oui, oui,
okay. Et enfin, Wishmaster, il me semble, à moins que je n'ai pas été attentif, qu'un jeu important a été oublié, et en plus, c'est un jeu français, The Last Night, développé par Tim Sorey et présenté durant la conférence Microsoft. J'ai été déçu parce que j'attendais aussi de savoir ce que l'équipe pensait de la polémique qui a suivi son annonce sur Internet, surtout sur les forums américains, débattu en France et notamment sur Le Monde au sujet de l'antiféminisme supposé de Tim Sorey. Oui, alors là aussi, ça a été une impasse pour le coup. Et c'est vrai donc que pour être précis et pour parler des faits, en fait, donc le The Last Night a fait sensation. Alors c'est un jeu en pixel
rétro moderne.
Qui effectivement a l'air très très séduisant, et ce qui est ressorti très très vite effectivement côté américain, c'est des tweets qui datent d'il y a 3 ans ou quelque chose comme ça, donc du principal créateur qui a quitté le projet depuis la fin de l'année dernière, je crois, Tim Sorey, donc qui est un Français.
Il a quitté le projet ?
Je crois. Et en fait, il y a 3 ans, lors du bien connu Gamergate, qui a été cette espèce de mouvement, et qui continue encore un petit peu maintenant, mais qui a été un mouvement de harcèlement, de sorte de hate mob contre, grosso modo, les créatrices de jeux vidéo, sous couvert de défense de l'indépendance de la presse, ça a été un moment assez pénible. Et dans cet instant-là, d'une sorte de confusion collective, on va appeler ça pour être gentil, Tim Sorey est intervenu, en fait, grosso modo, pour prendre le parti des gamer-gateurs contre l'ignoble censure féministe qui allait s'abattre sur le jeu vidéo, parce que quand même les féministes sont des nazis, hein, c'est bien connu. Et donc ces tweets sont remontés, il a fait amende honorable, il a dit qu'il a beaucoup changé sur les 3 dernières années.
Il a arrêté de boire, tout ça, il y avait
non mais voilà, ouais.
Le problème, c'est ça, c'est toujours des trucs qui... Il n'a fait son mea culpa qu'au moment où on lui a ressorti le truc devant les yeux. Et donc, c'est c'est le truc qui me gêne là-dedans. Après, les gens ont le droit d'évoluer, et tant mieux pour eux. Mais quand tu évolues et que tu as sorti quand même des horreurs à un moment donné dans ta vie, et que tu évolues, tu prends publiquement position qu'on te remette les trucs sur le nez.
Les spotlights se sont mis sur lui d'un seul coup.
Le propre des excuses. Tu les fais parce que tu t'es fait choper, sinon tu fais rien.
Voilà, donc c'est toujours ce moment-là qui est un peu gênant. Après, je ne juge pas le jeu en fonction de son créateur. L'œuvre, il paraît que les films de Clint Eastwood sont bien encore. Hein,
donc,
Donc, on va pas juger l'œuvre en fonction du créateur qui est derrière. Même si, dans ses tweets il y a 3 ans, il disait qu'il allait montrer ce qu'allait être un monde contrôlé par les féministes nazis.
Il est allé quand même jusque-là, grosso modo, en colère, en caricaturant.
Mais finalement, non, il n'y a rien de ça dans ce jeu. Bref, on n'en a pas parlé parce que, comme vous le voyez, c'est un com des coms, et on commence à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à évoquer cette affaire. En plus, il y a tellement de choses, de visions différentes. Voilà, moi, ça me semble des excuses un poil tardives. Après, je ne juge pas. Le jeu sera peut-être très bon. Mais de toute façon, c'est toujours des débats qui sont intéressants à remettre. Voilà, pour dire que quand il y a des prises de position publiques comme ça, ce n'est pas oublié. On est sur les réseaux sociaux.
Quand on est un auteur, qu'on a un nom, on sait que la voix porte d'une certaine façon, c'est vrai que c'est pas innocent.
Voilà. Si on parlait de jeux vidéo,
c'est aussi ça.
On va commencer avec on les connaissait, ces jeux, ils reviennent. Ils reviennent d'une manière un peu enchantée, en 4K pour ceux qui ont la possibilité et des sous pour avoir des télés et des choses comme ça. Mais bref, vous les connaissez, c'est la série des Wipeout, et ils reviennent avec Wipeout Omega Collection. Wipeout Omega Collection, une sorte de compilation, hein, une compilation mais remise au goût du jour, remise à la HD, même s'ils étaient déjà en HD pour certains. En fait, c'est une compilation de trois titres de la série Wipeout, pas de tous. Ça aurait été rigolo
non, aurait
de les avoir tous.
Une anthologie, ça,
une anthologie ça aurait été bien, mais là, nous avons le droit à la version HD de Wipeout, donc, qui avait été déjà remasterisée. C'est le premier Wipeout déjà remis au goût du jour, version PS3. HD Fury et 2048, donc trois Wipeout majeurs qui reviennent dans une collection. Ça fait quoi de remonter dans les vaisseaux de course qui vont hyper vite
et même Erwan, imagine une dimension où il n'y aurait pas eu de changement depuis... Non, je ne vais pas revenir sur mes histoires de dimension. Non, mais c'est étrange parce que je me rendais compte hier soir que j'alternais, j'étais toujours sur Tekken 7 et ouais. J'alternais avec Wipeout sur ma PS4 et j'attendais Crash Bandicoot qui revient le 30 juin. Et je me suis dit, mais on est vraiment revenu, il y a un vrai retour nostalgique, il y a 20 ans en fait, à la première génération de PlayStation, les premières vagues de jeux qui ont vraiment propulsé la PlayStation. Et c'est vrai que Wipeout, il a vraiment eu un rôle, moi, dans mon souvenir. Wipeout, d'ailleurs, j'ai revu des vidéos du premier, ça a vieilli. Ça fait drôle, d'ailleurs, bon, ça, c'est normal, ça a 20 ans. Hein.
C'est souvent comme ça.
Et c'est vrai, le souvenir qu'on en garde, et quand on voit une vidéo de jeu tourné, on se dit, ah ouais, quand même.
Mais c'est surtout cette 3D de la PlayStation qui est une 3D pixelisée.
Oui, avec des polygones qui apparaissent un peu par bloc, mais on ne les voyait pas à l'époque, on ne faisait pas attention. Ouais. Et surtout, Wipeout, donc à l'époque, c'était un vrai choc, parce que pour moi, c'était un des premiers jeux qui a propulsé la différenciation de PlayStation par rapport à Nintendo ou à Sega, qui s'adressait plutôt aux ados, etc., ou aux plus jeunes. Et puis, la PlayStation est arrivée avec ce jeu qui avait été donc développé par Psygnosis, c'était Psygnosis qui avait travaillé dessus, et c'était une baffe parce que c'était rapide, il y avait un look incroyable, ça avait été stylé, je crois qu'il y avait une agence de graphistes qui avait bossé dessus.
Designers Republic
la jaquette, il y avait un vrai cachet, et puis une bande originale monstrueuse. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier choc, c'était Xenon 2 à l'époque, où c'est la première fois que j'avais entendu sur mon Amiga une vraie chanson samplée dans un jeu vidéo, c'était Bomb the Bass à l'époque, il y avait un titre samplé sur Amiga, et puis après il y a eu Wipeout, où on avait une bande originale de malade mental avec les Prodigy, avec toute la scène...
Prodigy, hein, donc Wipeout, c'était le cheval de Troie.
Ah oui,
c'était le cheval de Troie de la PlayStation. Sony est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est Sony débarque. Alors, pour la petite histoire, voilà, au début, il était censé faire le lecteur CD
pour Nintendo.
Ça s'est mal passé. Ils ont décidé de créer leur propre console. Et surtout, en fait, ils arrivent avec une force dingue, c'est que Sony n'est pas un constructeur de consoles de jeux vidéo.
Musique,
c'est pas Sega, c'est pas Nintendo. Ils viennent de l'entertainment, ils viennent de la musique, ils viennent du cinéma, ils viennent de plein d'autres choses. Et donc, ils veulent changer ce qu'est le jeu vidéo. Ils arrivent en voulant changer le jeu vidéo. Et là, Wipeout, c'est la démonstration. Regardez, on a un CD. Hein, sur la PlayStation, elle marche avec un CD, donc on peut mettre de la musique sur un CD, de la vraie musique, et
tout,
pas des samples MIDI bien foutus et tout ça. Mais non, là, on peut mettre de la musique. Donc on va vous montrer quelle musique on peut mettre dans les jeux vidéo. Allez, venez, Chemical Brothers, The Prodigy et tout ça. Et évidemment, sans oublier, il faut que je le retrouve, mais Cold Storage,
bien
donc
sûr.
le musicien de Psygnosis, qui a fait une bonne partie de la bande-annonce à lui tout seul. Et ils arrivent et ils designent leur jeu. Donc
voulaient qu'ils allaient pas mal en boîte à l'époque, justement, pour s'imprégner de l'ambiance, des vibes qu'il y avait en boîte de nuit, quoi. Vraiment de l'ambiance.
Et surtout, après, retour à l'envoyeur. Et là, ça a été, encore une fois, on en parle 20 ans plus tard, donc est-ce que c'est vraiment comme ça? Mais un des points d'ancrage pour Sony dans le jeu vidéo, c'était de montrer que le jeu vidéo n'était pas une activité pour les enfants.
Oui, bien sûr,
une activité adulte. Et donc, en fait, ils ont installé des bornes de démonstration avec Wipeout dans les boîtes de nuit en Angleterre, à Londres et tout ça. Et donc, il y avait vraiment des bornes de démonstration.
Parce que Wipeout, il y avait le côté démo techno avec la musique. Mais il y avait aussi un côté un peu hypnotique. Moi, dans mon souvenir, il y avait un côté, la musique techno faisait que finalement il y avait une symbiose entre le jeu qui était assez exigeant. C'est pas facile, hein, les Wipeout, il faut pas mal de doigté, c'est assez exigeant en termes de gameplay, de gestion, de sa direction, etc. Il y avait vraiment un truc qui se passait avec la musique. Il y avait vraiment une symbiose entre le gameplay et la musique. Alors qu'est-ce qui reste de Wipeout aujourd'hui en 2017, donc quand on relance ça aujourd'hui? Moi je trouve qu'il tient toujours bien la route, et comme tu disais, on est sur une version HD super propre, en fait on est en 1080p, il y a une fluidité exemplaire. Et c'est là où on se dit, Moi, j'étais content de me dire, bah, Wipeout, il a toujours de la gueule aujourd'hui, quoi. Il envoie toujours. Quand on le met sur son écran plein pot, waouh, il envoie toujours. Alors, moi, j'ai eu quelques petits ajustements à faire parce que j'avais pas joué depuis au moins une bonne dizaine d'années à Wipeout depuis, je crois, les derniers que j'avais dû toucher, c'est sur PS3, mais ça fait vraiment très longtemps. Moi, je me rappelais que je jouais en vue intérieure à l'époque sur mon écran à tube. Je jouais tout le temps en vue intérieure pour avoir vraiment les sensations. Là, j'ai pas pu, quoi. Sur mon grand écran, j'ai essayé 2 minutes en vue intérieure et j'ai pas pu. Enfin, je me suis rendu, bon, alors peut-être que c'est parce que
en PSVR.
J'ai pensé. En fait, je me suis dit, en le lançant, je me suis dit, pourquoi ils ne l'ont pas lancé en VR ? Ça aurait pu être marrant. Et quand j'ai commencé à jouer en vue intérieure, je me suis dit, non, bah, c'est pas possible, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que les tailles d'écran ont complètement changé ? Et c'est vrai que, non, en fait, j'y joue en vue, un peu comme tout le monde, je pense, en vue extérieure. Et ça envoie toujours, quoi. Ce jeu, il est racé, je trouve. Il a un visuel, et le gameplay est toujours aussi exigeant. Enfin, c'est vrai qu'il laisse rien passer, et il faut vraiment s'accrocher pour.
Alors, moi, c'est bizarre parce que je trouve que c'est à. Visuellement et au niveau de la musique et tout ça, c'est toujours un vrai plaisir. Et puis il y a un côté Madeleine quand on a vécu cette période un peu fondatrice de Wipeout. Finalement, est-ce que le jeu vidéo serait différent aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Wipeout ? Wipeout, a été un des propulseurs de, pas le seul évidemment, mais un des propulseurs de la PlayStation. On sait que c'est la PlayStation qui a imposé la 3D comme ça, qui a fait cette révolution 3D un peu au forceps dans le jeu vidéo. Donc voilà, ça a été vraiment un jeu fondateur. Et moi, quand j'y joue, donc il y a cet aspect Madeleine, et en même temps, c'est comme quand je vois, c'est un peu l'inverse que quand je vois des jeux en pixel art aujourd'hui qui ont été modernisés au niveau du gameplay. Mmh. C'est-à-dire, il y a des jeux aujourd'hui qui ont ce look très rétro, mais qui sont d'une modernité assez dingue au niveau du gameplay, qui ont modifié. Et bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur de la 3D qui reste très belle, qui reste très.
Il est magnifique,
très visuellement, c'est super agréable et tout ça. Mais alors, c'est injouable.
C'est super dur.
Non, on dit pas que c'est super dur, c'est injouable.
Après, il faut jouer vraiment sur les variations avec les mouvements sur les côtés, etc.
Mais enfin, même ça,
c'est super dur. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai laissé tomber la vue intérieure.
Je me suis battu, j'ai essayé de finir parce qu'en plus, il faut débloquer les courses. Donc, il faut arriver dans les premiers et tout ça pour débloquer les courses. Donc, tu refais les courses, t'apprends un peu les parcours. Mais sachant que, alors, on est sur de la course ultra rapide façon F0 c'est sur ce genre-là
la moindre erreur te fait perdre une course. Tu peux être premier en te tenant vraiment la barre, la moindre petite faille, c'est fini.
Et là-dessus, tu ajoutes évidemment, parce que c'est pas suffisant d'aller très très vite dans des décors futuristes, tu ajoutes des accélérateurs sur la piste, et puis, vu que ça ne suffit pas, parce que tu vas très très vite, évidemment, il y a des armes. Alors moi, c'est le truc que je pense, aujourd'hui, dans un jeu à la Wipeout, ça n'existerait plus, il ferait un jeu
Mario
de course.
C'est un peu la Mario Kart.
Voilà, mais un jeu à la Mario Kart, où tu dois te concentrer sur la vitesse, parce que t'es un peu dans le flow un peu du jeu, donc voilà, et là, en plus, t'as des armes, t'as des gens qui te balancent des missiles, tu gagnes des armes, il faut que tu vises tes ennemis, il faut que t'appuies sur les boutons en plus qui sont mal pensés parce que tu as l'accélérateur qui est sur la croix et puis il faut balancer les armes avec le carré qui est juste à côté. Je trouve que au niveau gameplay,
il permet pas de jouer à deux, il y en a un qui pilote et l'autre qui tire comme une bonne équipe, tu vois, un team quoi.
Mario Kart Double Dash,
le mec qui tire s'ennuierait assez vite en fait parce que il regarderait la course
et en plus il y a très peu d'armes à récupérer, enfin non, c'est juste. Alors le côté intéressant, c'est le jeu en split screen, voilà, c'est
l'un
contre l'autre, c'est toujours le moment où là finalement la rugosité du gameplay on peut passer outre parce que il y a le côté agréable, il y a machin, on peut jouer en ligne mais encore une fois c'est compliqué parce que je sais plus comment on appelle ça, mais les sortes de dérapages gauche ou droite,
c'est super dur, on se tape partout, en fait, t'as
un virage un peu serré, donc tu te dis j'ai un peu dérapé pour bien prendre le virage, et en fait tu te recognes contre parce que tu tournes trop, enfin c'est, et du coup voilà, c'est une sorte de rugosité de gameplay
qui
rend le truc compliqué.
Moi j'en suis rendu compte, j'ai fait pas mal de tours et en fait il faut vraiment refaire les pistes 10 fois où tu commences à reprendre le coup d'anticiper vraiment les. Il n'y a que comme ça qu'on peut finir dans les 3-4 premiers d'une course. Mais c'est vrai que c'est.
Sauf peut-être quand t'as 12 ans et que t'es très fort.
Mais je pense aussi.
Parce que ton cerveau, il s'adapte très très vite.
Je pense aussi qu'il y a
ça aussi.
Il y a ça aussi. Je pense que moi, j'avais le souvenir d'être meilleur il y a 20 ans.
Parce que je regarde là derrière vous, je connais pas le jeu, mais quand tu vois les gamins piloter des drones.
Oui.
Hein, ils vont, tu vois, les pilotages de drones, ouais, là, c'est pas loin. Hein.
Après, ouais, ça, il y a quand même un vrai plaisir. On rappelle, on n'est pas sur des voitures, on est vraiment sur des systèmes magnétiques. Donc, il y a une sorte de suspension comme ça. Et en fait, on actionne des bonus en roulant dessus, en passant dessus. Ouais. Donc, il y a les accélérateurs, il y a les armes qu'on enclenche. Et il y a aussi tout un jeu sur les cartes, sont plutôt bien foutues. Enfin, je crois que c'est des cartes donc, d'anciennes versions, comme tu disais, de HD, de l'extension Fury, etc., qu'on retrouve, qui ont été refaites. Mais je trouve que le design est bien fichu. Quoi. On a l'impression d'être sur un circuit TCR parfois où on passe comme ça d'une branche à l'autre, on retombe. Et là encore, il faut vraiment anticiper, il faut connaître vraiment par cœur les circuits pour savoir vite où il faut se positionner, etc., par rapport aux autres.
Mais là, moi vraiment, en ayant joué un petit peu, donc quand même aux différents circuits, différentes versions, etc., finalement, ce qui sort de ce Wipeout Omega Collection, c'est qu'on a envie d'un nouveau Wipeout. C'est-à-dire qu'on peut-être a envie d'un Wipeout moderne au niveau du gameplay.
Moins rugueux, ouais, je suis d'accord. Peut-être plus ouvert pour les joueurs néophytes ou les vieux comme nous.
C'est pas une question d'être néophyte. Je trouve que c'est une question de rendre le truc un peu plus jouable. Quoi. C'est
ouais,
tout.
Voilà, c'est vrai qu'il est impitoyable. Il est vraiment impitoyable. Ouais. Et je te dis, moi, j'ai vite laissé tomber mes habitudes il y a 20 ans où j'étais en vue subjective. Et là, je peux plus, quoi. Je peux vraiment plus.
Donc, Wipeout Omega Collection, évidemment.
L'humilité.
Évidemment, une exclusivité PlayStation 4.
Hein, et vraiment, je trouve que graphiquement, il arrache toujours. Oui, quoi. Il est d'une fluidité. En plus, sur PS4, moi, j'ai pas eu un seul lag. Il y a une fulgurance graphique assez impressionnante. Okay.
C'est beau, mais tu peux pas y jouer. C'est bien.
Il faut s'accrocher.
Et disons-le aussi, c'est que la musique est toujours exceptionnel. Ouais, franchement, Cold Storage, Chemical, Orbital et tout ça, ça reste. Mais c'est marrant parce que ça n'a pas vieilli. Mais
ce flow dont tu parles, ce fameux flow entre le gameplay, la musique, ça marche toujours. C'est vrai qu'il y a un côté hypnotisant très vite.
C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TechFrag.net.
Bonjour mon cher Juan, cette semaine.
Et sa chronique jeu de société, bonjour. Ah non, ça fait plaisir.
C'est bizarre d'être là. C'est en temps réel. Donc,
j'ai rien préparé. J'ai mis une boîte, je vous la sors. Comment ça va?
Mais du coup, c'est une version interactive, on peut vous interrompre pendant le...
Tu peux me poser des questions.
Mais si on sort la GoPro et...
Ouais, on pourra la mettre là.
Ouais, alors du coup, on a le droit à... une chronique en live. Okay. On va commencer par celle-là, moi, je pense. Donc, tu nous as apporté un jeu.
Oui, j'ai apporté un jeu. Alors, si j'ai apporté un jeu de circonstance, dans une semaine commence le Tour de France. Et donc, je vous ai apporté Flamme Rouge, qui est ici. Alors, Flamme Rouge, c'est un jeu assez exceptionnel. Alors là, c'est une édition spéciale. Il y a toute une histoire absolument incroyable avec ce jeu.
Oui.
C'est l'édition spéciale Direct Energy, qui n'existe qu'à 200 exemplaires. Qui a été fait en accord avec Direct Energy, car j'ai eu la chance de pouvoir jouer à ce jeu avec Sylvain Chavanel et quelques membres de l'équipe Direct Energy, parce que les jeux de sport, en général, ça ne marche pas.
Non.
Ça ne marche pas pour plusieurs raisons, parce que les gens qui inventent un jeu sur le sport, en général, ils parlent de leur sport, qu'ils affectionnent tout particulièrement, ils veulent être précis, concis, tout ça, et le gameplay, ils n'y pensent pas, le fameux gameplay, et donc vite, on s'emmerde. Or là, ce jeu est exceptionnel, parce qu'avant d'être un jeu sur le vélo et un jeu de sport, c'est un excellent jeu. Un vraiment très 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 bon jeu, dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est un jeu simple, efficace, accessible, qui fonctionne. Alors il est sorti, il a une histoire un peu particulière. Il est sorti il y a 6 mois à peu près, mais en Allemagne et en Finlande, chez Lotap Elite. Et il vient d'arriver là, il y a quelques semaines, là, chez Gigamic, qui est un éditeur français, qui a donc récupéré les droits et qui nous en a fait une version française, une vraie version française, parce que la version que je m'étais procurée, moi, à Essen, ça a été Google Translate. C'était très compliqué à comprendre, mais bon, on s'en sortait quand même assez facilement. Et donc, Gigamic a récupéré les droits et l'a sorti là. Il vient d'arriver sur les étals. Alors, c'est un jeu signé... Quand j'enregistre mes chroniques à la maison avec ma GoPro, en général, je recommence parce que j'écorche le nom des auteurs. Alors, il s'appelle Asger Sams Grenerud. Voilà. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, je crois, c'est ça, pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes. Donc déjà, 8 ans, on voit que c'est accessible à tout le monde. Donc les règles se comprennent facilement, elles sont simples, efficaces, mais non dénuées d'un intérêt, y compris pour les joueurs un peu passionnés. Et surtout, aussi auprès de ceux qui aiment le vélo. Parce que je pratique la bicyclette, cher monsieur.
On le sait, on le sait. Pour qui te suit sur les réseaux sociaux,
Et au départ, on aurait pu croire que je me laissais avoir par le fait que c'était un jeu sur la bicyclette. Et que
la passion, tout ça.
Alors que pas du tout. En fait, la bicyclette, j'aime en faire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Or là, ça marche. Ça rend les sensations d'une course à bicyclette de manière absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand on aime le vélo, quand on comprend le vélo c'est un sport de stratégie et de tactique, on le retrouve là. Les problèmes d'aspiration.
Il faut aussi pédaler, je crois.
Dans le vélo, il faut pédaler. Là, il n'y a pas besoin. Ouais. Mais on redécouvre la tactique, parce qu'on a, on a deux coureurs, on a un sprinteur et un rouleur. Dans le vélo, c'est un sport d'équipe. Hein, on va se cacher, parce que quand on fait du vélo, quand on est derrière quelqu'un, on économise 35% d'effort. Voilà. Le jeu le propose. Il y a des attaques, etc. Exactement comme une course de vélo. Et là où le jeu est formidable, c'est que même les gens qui n'aiment pas le vélo, qui n'y connaissent rien, vont comprendre les règles, prendre plaisir et comprendre les tactiques de vélo. Parce que Flamme Rouge est un jeu de course. Vous avez donc un départ, vous avez une arrivée. Et vous allez jouer avec des cartes. Il y a un stock de cartes, on a tous les mêmes cartes. On va en piocher quatre, on va en choisir une, qu'on va mettre face cachée, et tous les joueurs vont faire pareil. On va la révéler, et c'est le nombre de cases qui va nous permettre d'avancer sur le plateau. Cette carte, une fois qu'elle est utilisée, on la vire.
D'accord.
L'idée globale et générale, c'est que on va profiter de l'aspiration des autres. Donc si on a une case d'écart, on va hop, grignoter. Donc, en gros, il faut jouer des cartes un petit peu moins fortes que ses adversaires, mais pas trop quand même pour paraître éloigné. Donc, il y a une espèce de genre de bluff de tactique, déjà de savoir ce que vont faire les autres avec la moule de tirage de cartes. Parce que, tu vois, de toute façon, quand on perd à ce jeu, on se plaint parce que l'autre a eu de la moule.
Voilà.
Et quand on gagne, on est content parce qu'on se dit qu'on est plus fort et plus intelligent que les autres.
C'est
donc,
aussi des grands jeux,
quand on perd, on a envie de rejouer parce que c'est pas possible de perdre. C'est et quand on gagne, on est persuadé qu'on est champion du monde, on veut rejouer. Mmh. C'est ça la force du jeu. Ouais. Parce que les parties font 30 minutes. Et donc.
Ah, c'est court, c'est bien. Enfin, c'est...
Comme dans tous les jeux de course, en plus, il y a cette gestion déjà des cases sur lesquelles on va avancer, mais surtout, quand on est devant, quand on est en tête, on se prend le vent et on récupère des cartes de pénalité qu'on remet dans son deck à soi, qui fait qu'à un moment donné, il faut gérer, parce qu'on va se retrouver qu'avec des cartes de fatigue. Et donc, on va moins avancer, parce que les cartes de fatigue vous font aller moins loin. Donc, il faut être devant, mais pas devant. Il faut être planqué, mais pas planqué. Il faut attaquer, mais pas trop. Ouais. Voilà. On peut faire des échappées. Mais c'est très difficile.
Ouais.
Il y a une règle de base, qui est la règle standard, simple, sans prendre en considération la montagne et la descente. Et quand on maîtrise un petit peu le jeu, il y a des règles de montagne, donc de grimpette et de descente.
Ah, le relief est pris en compte aussi.
Il est pris en compte. Ce qui fait qu'on comprend très, très vite qu'on s'entoure. On prend quatre cartes, on en choisit une, on la révèle, on avance. Point.
Ouais.
Il n'y a que ça à faire. Mais c'est un jeu de course, donc il y a cette petite excitation, la même qu'à Wipeout.
Ouais.
Tu sais, t'es devant, tu vas craquer, le mec il se barre, merde, je me suis fait barrer,
je me suis fait avoir,
je veux le rattraper, on sait que c'est l'autre qui va le rattraper, donc on veut se mettre dans sa roue. C'est juste exceptionnel. J'ai joué en famille, avec mes femelles, mais je ne sais pas si c'est bien apprécié. Avec mes enfants, tout ça, qui n'aiment pas le vélo, qui n'aiment pas trop les jeux de société non plus, sont plutôt jeux vidéo, mes filles, ben elles ont apprécié parce que ça marche. Et tu n'as qu'une envie, c'est rejouer derrière. Voilà. Et ça coûte, je crois, 35€ la grosse boîte.
D'accord.
C'est Gigamic.
Est-ce qu'on peut faire des sprints à l'arrivée tout
bien,
ça,
sûr,
ça,
bien sûr, bien sûr.
Il y a des règles spéciales pour les événements.
Alors, non. C'est là où le truc est formidable. C'est que ce jeu, l'air de rien, il est sorti à Essen, c'est le gros salon allemand. Il était tout discret, personne n'en parlait vraiment. Et moi, je cherchais un jeu qui pouvait m'attirer pour raisons diverses et variées. Je ne vais pas m'étaler là. Et je suis tombé là-dessus. Et j'en ai parlé à ce moment-là. Et en fait, pas mal de gens se sont précipités pour y jouer. Et il y a une espèce de communauté qui s'est mise là-dessus. C'est-à-dire que le jeu, je l'ai dit, c'est là où il est très très fort. C'est que souvent, un mec qui va faire un jeu sur le vélo, par exemple, il va essayer de tout mettre. Ravitaillement, pavé, tout ça.
Ah oui,
et c'est chiant. C'est juste chiant parce que tu ne peux pas avaler les milliers de règles.
Voilà.
Là, le mec, il a fait une règle de base, super simple, accessible, compréhensible par tout le monde. J'ai fait jouer les gens de Direct Energy, l'équipe cycliste. Ce n'est pas des joueurs de jeux de société, à part un. On a commencé à jouer, ils ne connaissaient pas la règle. Ils venaient de terminer leur étape des 4 jours de Dunkerque. Chavanel venait de gagner, bravo champion. On s'assoit dans une chambre d'hôtel, on commence à jouer. En expliquant les règles, les mecs ont capté tout de suite, ils ne voulaient plus s'arrêter. On avait 10 minutes pour jouer, tu sais. Mais les mecs, ah non, je ne vais pas te laisser partir devant, tu vois, vraiment. Donc tu comprends les règles tout de suite. Tu as cette deuxième petite couche de règles avec la montagne qui apparaît juste derrière. Et le mec, il n'a rien mis d'autre. Là, a été annoncé, là, hier, la première extension.
D'accord.
Et il y a une communauté qui s'est mise en place avec le jeu. En 6 mois, il y a des gens qui ont inventé des règles pour à peu près tout.
Pour enrichir.
Les pavés, les virages. Ils ont même fait.
Bien.
Tu joues qu'à 4. Parce que je vais te l'ouvrir, parce que là, on est un peu.
Ah
il y a des caméras,
on
a la télévision.
Celui-là,
il n'est pas déballé. Mais tu vois, tu fabriques ton circuit comme ça, là, avec des petites choses comme ça. Voilà. Et tu n'es qu'à 2. Il y a déjà une règle pour jouer à 3. Tu as des mecs qui ont fabriqué des éléments en 3D pour pouvoir se doubler à plus de 3 de front, donc jouer à 6 du coup.
C'est joli, ouais. Sympa.
Voilà, donc une vraie communauté. Il y a des championnats, les mecs ont fait des règles, parce que là c'est du en ligne, comme on appelle ça, départ-arrivée, sauf qu'il y a des règles avec des étapes, avec des étapes, Tour de France, etc.
Mais c'est trop bien.
En circuit, c'est juste.
Ah ouais.
Je n'ai jamais vu personne ne pas aimer ce jeu en fait.
D'accord.
Parce que c'est
L'extension officielle donc qui va arriver.
Elle va arriver. Ça s'appelle
c'est
le peloton.
C'est quoi du coup
J'ai pas regardé parce que je l'ai découverte tout à l'heure en arrivant dans le train. Voilà.
Le trait donc d'actualité parce que le Tour de France c'est pour dans pas longtemps.
Ça démarre là la semaine prochaine.
La semaine prochaine et donc ça s'appelle Flamme Rouge.
Je rappelle le nom de l'auteur. C'est là le morceau de bravoure. Asger Sams Grenrud. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes.
Tu penses que c'est...
Ah oui 8 ans c'est bon je te dis. C'est des cartes. Écoute tu ne me crois pas mais là on est là. Montrer la règle.
Elle est... c'est jeune. Est-ce que c'est...
Bah, ouais, il
c'est...
suffit qu'il sache compter.
Ouais.
Tu fabriques ton circuit, d'accord ? T'as deux petits coureurs, t'as des petites figurines, là je vais te les montrer, tu vois, t'as des figurines de course, c'est ça aussi qui plaît, c'est comme quand t'es petit, t'es en train de te mettre le bordel
c'est
sur
ta
table. T'as ta petite figurine, toi, chaque joueur, chaque joueur a ses petites figurines, toi, le rouleur et le sprinter, et chaque joueur a des cartes.
Bah, finalement, donc on allait parler de Friday the 13th, mais je vois qu'on a 20 minutes, on peut faire une partie.
Ah bah, avec plaisir. Hein.
Alors, juste, merci.
Bah,
merci,
de rien,
monsieur
de rien.
Fall. Ah, merci hein. Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv, parce que énormément de vidéos, de live, de ouais. choses comme ça, de parties commentées, parce que si vous voulez voir des parties de Flamme Rouge, vous allez sur TrickTrack.net, je suis persuadé qu'il y en a déjà.
Il y en a plein, parce que.
Plein
oui, parce qu'en fait. Dans le secteur du jeu, il y a un auteur de jeu qui s'appelle Bruno Catala, qui est un amoureux de vélo. Et quand il est venu, c'était pas son jeu, mais on s'est assis à la table, on a joué. Ben voilà, quoi. Donc il y a pas mal de vidéos où on joue.
Et dis-moi, on arrive à la fin donc de cette saison, donc septembre-juin, de Silence on joue, et puis finalement de saison de sortie de jeu et tout ça. Ça donnait quoi ? Il y a eu des tendances sur ces derniers mois ?
Alors, il n'y a pas une tendance, il y a des tendances. Ouais. En fait, on est en train de vivre, dans le secteur du jeu de société, on est en train de vivre un bouleversement. Le secteur est en train de se transformer à cause ou grâce à Kickstarter d'un côté.
Ouais.
Il y a énormément de boutiques, il y a énormément d'éditeurs, d'auteurs, de plus en plus de distributeurs. Le secteur est en train d'exploser. On n'en est pas encore au phénomène de la BD, mais on s'en approche. Ouais. Il sort, je ne sais pas, 2000 jeux, entre 1500 et 2000 jeux.
On est proche.
Une boutique, par exemple, un magasin ne peut plus tout avoir.
Ouais.
Et on voit qu'il y a une scission, en fait, au niveau de la consommation et des endroits où on se renseigne, où on achète. Internet est passé par là. Donc, on constate quoi ? Que les gros joueurs spécialisés pour les gros jeux suivent des projets plutôt sur Kickstarter.
Ouais.
C'est là que ça se passe. Parce que t'as un phénomène intéressant. Je sais pas comment ça marche dans le jeu vidéo. C'est aussi un phénomène par rapport aux médias, à l'information qui est en train de se mettre en place, qui est bouleversé. On vit dans un monde où les intermédiaires disparaissent.
Ouais.
Les acheteurs potentiels vont financer directement auprès
du créateur.
Oui. Donc, dans le jeu de société, c'est des éditeurs qui vont sur les plateformes de financement participatif. Et même pour l'information, quand on fait de l'information, ce que tu fais, ce que je fais, on a un intermédiaire entre le mec qui fait son produit et le mec qui va l'acheter. Or, on a tendance pas à disparaître, parce qu'on a encore besoin de gens qui montrent un petit peu, parce qu'il y a une grosse production. Mais malgré tout, les gens qui fabriquent des produits s'adressent de plus en plus
directement
aux consommateurs. Ouais, et Kickstarter en est un exemple.
Ouais, ouais.
Puisque pour porter un projet sur Kickstarter, tu es obligé de faire beaucoup de com avant.
Ouais.
Énormément de com avant. D'accord ?
Ouais.
Et
ou être connu.
Ou être connu, mais dans le monde du jeu, des gens connus, tu es connu une fois que tu as levé 3 millions de dollars.
Ouais,
avant,
on
ne sait pas qui t'es.
Ouais.
Donc tu es obligé de communiquer beaucoup avant. Et donc les joueurs sont en relation directe avec l'auteur ou l'éditeur du jeu.
Et c'est là où des communautés comme Trick Track et tout ça sont super importantes pour les gens qui veulent lancer des Kickstarter.
Oui, exactement. Maintenant, les gens viennent discuter sur les forums comme Trick Track, mais aussi Facebook et autres.
Ouais.
Et donc, si tu veux, il y avait un phénomène aussi qui était intéressant. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans le jeu vidéo, mais qui doit aussi exister probablement, puisqu'il n'y a pas de raison, c'est le comportement et la nature humaine. C'est que... les éditeurs et tout ça, avec des jeux qui sortent, en tout cas avec les jeux de société, communiquent énormément avant que le produit arrive. Donc on sait tout.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Et les leaders d'opinion, les gens qui vont aider les autres à choisir, qui peuvent la ramener en disant « j'ai joué à ce jeu avant, etc. », ils n'ont plus la vraie caisse de résonance tu vois, que tu pouvais avoir. Je vois sur TikTok, on a un forum qui s'appelle « Discutons jeu ». Qui est déserté. On a un forum qui s'appelle Projet Participatif, qui est rempli de mecs qui viennent causer. Parce que maintenant, l'intérêt du joueur, tu es leader, de voir avant que le projet sorte, un an avant, de dire, hey, moi je l'avais repéré avant, j'ai pledgé, je l'ai, tu l'as pas. Tu vois, on a une espèce de. Et du coup, ça change le secteur, parce que ces jeux ne vont plus aller dans les boutiques. T'as de gros projets comme Conan, etc., qui ont levé des millions de dollars, mais qui ont plus de vie en boutique, parce que tous les joueurs l'ont acheté en Kickstarter. Et donc, là où je veux en dire, c'est que le secteur se divise en deux. Les gros projets, les gros jeux, costauds, sophistiqués, sont sur les plateformes de financement participatif, ne vont plus en boutique. Les joueurs en discutent deux ans avant qu'ils sortent.
Et ça, c'est plutôt pour les joueurs passionnés,
voilà,
qui suivent vraiment l'actu.
C'est ça. Donc, les joueurs core vont de moins en moins dans les boutiques. Et d'un autre côté, tu as de plus en plus de jeux grand public, mass market, comme celui-là.
Qui, eux, sont en boutique.
Mais qui sont évolués, en fait. On est bien loin des monopolies.
Exactement. Les gens ont compris que le Monopoly, ça a 75 ans. Ouais. Et que jouer, tu en parlais tout à l'heure avec la notion de Sony, la PlayStation, c'est ce que je dis souvent quand on parle du combat jeu vidéo, jeu de société. Non, le jeu vidéo a fait un bien monstrueux au jeu de société. C'est les gens ont compris que jouer, c'était pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Ouais. Et donc, on a d'un côté le grand public qui se met vraiment beaucoup à jouer aux jeux de société, jeux vidéo, jeux de société, et les joueurs corps qui aiment bien les gros jeux costauds, qui, tu as une espèce de scission. Le marché est en train de se séparer en deux comme ça. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Les boutiques, forcément, elles gueulent un peu, puisqu'elles disent « Ouais, quoi, ton projet, Kickstarter va pas aller dans ma boutique, je vais perdre de l'argent. » Ouais, mais peut-être concentre-toi sur le marché qui est en train de se créer là. Je te dis, sur TrickTrack, on a un trafic de 50% supérieur l'année dernière.
Oui, on est sur le phénomène. Là.
Voilà, on est passé de 225 000 visites uniques par mois à 450 000, 500 000.
Donc, tu parles de ces titres Kickstarter plutôt core gamer. Ouais. Il n'y a pas certains de ces titres qui peuvent après devenir grand public parce qu'ils ont une résonance.
Tu as Zombicide, par exemple, qui a fait ça.
Qui commence avec les core gamers et puis qui se répand finalement dans les boutiques parce que...
Oui, mais quoi qu'il arrive, le propos, c'est qu'Internet... c'est infiltré partout. Oui. Donc, t'as loupé, il y a Zombicide, par exemple, c'est un bon exemple. Il a été fait sur Kickstarter, il s'est retrouvé en boutique. Bon, mais tu dis, merde, sur Kickstarter, j'avais des trucs éléments spéciaux que j'ai pas en boutique, puisque t'as des pledges spéciaux. Tu dis, la prochaine fois qu'il ressort un truc, moi, je veux Kickstarter.
Donc, en fait, t'as
de plus en plus de monde qui va Kickstarter, qui va mettre des sous. Donc, t'as de moins en moins d'intérêt.
En fait, là, le jeu de société réussit là où le jeu vidéo a échoué. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur Kickstarter, alors que le jeu vidéo a été un des éléments qui a lancé finalement le phénomène de la plateforme participative, Tim Schafer et tout ça. Et en fait, le jeu vidéo, finalement, a fini par déserter
la plateforme
petit à petit.
Ce n'est pas exclu que les porteurs de projets disparaissent aussi des partenaires de Kickstarter, parce que, après, c'est Internet. Tu vois, je vois souvent tes chroniques où tu parles, où tu fais des petites. Tu prends des petits éléments du jeu vidéo ou autre, et puis tu fais des petites chroniques un peu spéciales. Et là, ça mériterait des genres de choses, parce que les comportements sur Internet sont devenus plus ou moins exécrables. Tu vois, j'ai une théorie là-dessus que je pourrais un jour évoquer, mais les gens se lâchent énormément, et ça devient très difficile d'être porteur de projet. Tu as des porteurs de projets qui ont levé 3, 4, 5, 10 millions et qui se font. Il y a une petite erreur, un petit machin, un petit délai d'un mois de dépassement. Ils se font défoncer.
C'est compliqué,
Effectivement, tu élimines les intermédiaires, mais tu es au contact.
Les intermédiaires,
tu vois, c'est bien parce que tu dis, tu vois ça avec Billy, tu lui tapes sur la gueule à lui, tu prends pas. Et les auteurs, souvent, c'est des gens sensibles. Et quand ils se prennent ça à pleine face, tu vois, c'est délicat. Ouais. Donc, le secteur ludique est dans une charnière.
Et tu penses que l'effet Kickstarter a changé la manière dont les jeux sont pensés? Parce que du coup, on écoute plus les gens qui back en tant que créateur. Est-ce que les créateurs ont changé leur façon de faire?
Ça dépend des gens.
Intuitivement, j'ai l'impression aussi que c'est devenu des objets. C'est plus simplement le jeu, le principe
on
de règles et tout
objets,
ça. C'est le design, les figurines, les choses comme ça. Il faut.
Et puis ça s'appuie sur des travers de la nature humaine. On appelle ce qu'on appelle les complétistes.
Ouais,
pas les complétistes. Les complétistes, ils veulent tout. Ouais. Tu veux tout. Il y a les mecs, on en parlait d'un projet qui avait 15 millions de dollars. T'as de quoi jouer pendant 30 ans avec ça. quand le mec il va recevoir son truc, il a 30 ans de jeu.
Mais ça se trouve, il ne va même pas le sortir de la boîte.
Exact.
Parce que c'est un collectionneur.
Il sera passé à autre chose et il y en a tellement. Oui, c'est des comportements un peu bizarres. Ouais. C'est fascinant à suivre. Ouais. Et le secteur ludique sur table à l'heure actuelle, il est juste passionnant. On a vécu une installation, là, moi depuis 17 ans que je suis de ce secteur, et une installation. Et là, on est à un moment très étonnant. Vraiment, vraiment très intéressant.
Eh ben merci, merci beaucoup de ce petit point. On va garder un peu de temps quand même, pour parler de ce phénomène du survival horror asymétrique. Avec un Kickstarter réussi, Friday the 13th The Game. Hein, ils avaient fait Kickstarter et Backer Kit, hein, c'était deux systèmes de financement participatif. Voilà, ils ont un total de 1,2 million $ pour ce jeu Friday the 13th. Donc un survival horror asymétrique. Souvenez-vous de Jason et de son masque de gardien de hockey qui a voilà, c'était parmi les premiers slashers, hein, ce qu'on appelle les slasher movies. Et la colonie de vacances, tout ça, au bord du lac. Hein, c'est un endroit un peu sympa pour faire la fête entre jeunes. Et là, un Jason qui arrive, qui passe par là, et c'est le drame.
Qui sort pour l'été, c'est bien, parce que c'est vraiment c'est un événement estival, bon, on dit très souvent. Moi, je me rappelle les avoir découverts sur Feu la 5, quand j'avais une quinzaine d'années, c'était les films qui passaient l'été. Bon, on dit très, évidemment, pour moi, c'est une des références dans le domaine du slasher. Et c'est du pain béni pour le jeu vidéo, Vendredi 13. Et étonnamment, on n'a pas eu tant que ça d'adaptation. Il y a une version en 89 sur NES, je crois qu'il est réputé pour être assez difficile, que j'ai pas pratiqué. Moi, j'ai plus de souvenirs d'un jeu qui était sorti en 86 chez Domark, un éditeur anglais qui faisait pas mal de jeux James Bond à l'époque. Un jeu qui était pas mal, que moi j'avais beaucoup aimé, une sorte de monde ouvert à l'époque. C'était vraiment presque un précurseur de ce dont on va parler aujourd'hui. Un monde ouvert avec on devait pourchasser comme ça Jason dans le fameux camp de vacances. Et il y avait vraiment un truc dans ce jeu de Domark, et je me rappelle, il y avait des petites pastilles de sang dans la boîte. C'était ça, le jeu vidéo des années 80, ça partait très loin dans des trucs comme ça. Donc voilà, ce jeu de Domark, moi, il m'avait beaucoup plu, et depuis, c'était un petit peu le désert, à part ce jeunesse. Et puis, il y a eu cette annonce d'un jeu online, donc, ouais. Qui reprend donc la thématique Vendredi 13 avec tous les le personnage de Jason, et en asymétrique. Donc pour l'instant, on est sur un jeu uniquement en ligne, qui se joue donc, si je ne dis pas de bêtises, à 7 joueurs plus 1.
Et on est en pré-release, hein, donc enfin, comment on appelle ça
Il est sorti,
il est
le jeu. Il est encore en développement. On va en parler, il y a des choses qui vont sûrement encore arriver. Il a été lancé, je crois, fin mai, et en fait, j'ai eu la chance de ne pas assister au lancement des premiers jours. Moi, je m'y suis mis peut-être 2 semaines après le lancement, et j'ai bien fait, en fait. Parce que visiblement, il a eu un départ très, très, très chaotique. En fait, d'après les chiffres que j'ai vu passer, les développeurs donc, s'attendaient à 30 000 joueurs connectés au lancement. Ils se sont retrouvés avec 75 000 gus, venus s'éclater dans les bois pour s'exploser entre eux. Et donc, les serveurs ont complètement explosé. Il y a eu des gros problèmes de matchmaking, de connexion, de bugs dans tous les sens. Donc les débuts ont été assez compliqués. Moi, dans mon expérience, donc j'y joue depuis une bonne semaine, j'ai pas eu trop de problèmes. Visiblement, les développeurs ont pas mal assaini la situation. Ils se sont d'ailleurs excusés. Hein. Ils ont fait des mea culpa. Oui. Ils ont sorti des DLC gratuits pour faire un peu passer la pilule. Et bon, ils disent que voilà, le jeu va continuer à évoluer et à s'enrichir au fil des semaines qui viennent, parce qu'on est sur un jeu complètement en ligne. On resitue un petit peu la problématique. Donc Jason, c'est un espèce de tueur en série complètement fou, dont la passion, c'est de pourchasser les moniteurs d'un camp de vacances en pleine forêt. Donc tout ça, ça se prêtait vraiment bien à un jeu en ligne. Et pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est vrai qu'on avait vraiment la thématique.
L'idée, c'est qu'il y a un joueur.
Alors,
quand on lance le jeu, sauf si on a mis des préférences, mais normalement, on n'en met pas.
On lance
le jeu, il y a 8 joueurs.
Donc 8 en tout, donc 7 joueurs, moniteurs.
Voilà, et il y en a un qui joue Jason.
J'avais lu, je crois qu'on a 12% de chance, 10% de chance d'être Jason. Donc moi, je l'ai pas été beaucoup. Et c'est vrai que ça surprend quand on est Jason. Ça change complètement le paradigme du jeu. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment réussi à créer. Moi, je suis pas très fan pour l'instant, des expériences que j'ai eues en asymétrique. J'avais essayé Evolve, j'ai pas du tout tenu dessus. Ça m'avait pas plu. Là, je pense que pour les joueurs qui ont une affection pour l'univers de Vendredi 13, c'est vrai que c'est un univers très typé, avec vraiment... Et là, on sent qu'il y a un respect, vraiment. Il y a un vrai respect de la, des premiers films, en termes d'ambiance, en termes de réalisation. D'ailleurs, j'ai noté, les développeurs ont travaillé que, bah, notamment l'acteur qui a joué Jason dans les derniers films, pour la motion capture. Et c'est important, parce que Jason, c'est une espèce de baraque, mais qui ne parle pas. Tout se joue dans les gestes. Et c'est vrai donc ils ont pris cet acteur qui a fait la motion capture. Et ça marche bien. On reconnaît le côté. Enfin, voilà, Jason, il explose les pauvres moniteurs dans des séquences toujours assez gore. C'est vrai que le jeu ne fait pas dans la demi-mesure. Il y va franchement. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'action finishim à la Mortal Kombat, mais vraiment trash.
Avec des exécutions environnementales. Si t'es près d'une cheminée, si t'es près d'une fontaine.
Ça, où il t'explose les yeux, où il te retourne la tête.
Autrement, si t'es près de rien, il y a sa hache.
Voilà, il y a la hache. Hein, et il est assez joueur, Jason, comme dans les films. Et ça, c'est vraiment bien reproduit. Ils ont repris aussi. ils ont travaillé avec.
Mais comment tu le sais?
ils ont travaillé avec le musicos du film original, avec Tom Savini, qui est le créateur d'effets spéciaux cultes. Donc, ils ont vraiment réussi à. On sent qu'il y avait une volonté de retrouver vraiment l'ambiance des premiers films, la patte vraiment des premiers slashers de la série. Et ça marche bien, encore une fois, en termes d'ambiance.
Juste pour poser un peu le truc, donc au début de partie, il y a un joueur qui joue Jason, et cet autre joueur qui joue avec des sortes de stéréotypes de personnages de slashers. La bimbo,
le
BCBG, le sportif, avec des caractéristiques différentes. Certains vont se libérer plus facilement de l'emprise de Jason, quand d'autres vont être plus discrets, quand d'autres vont avoir plus de force pour porter les objets. L'objectif là-dedans, pour les joueurs, pour Jason, c'est de buter tout le monde.
C'est le moins possible.
Et l'objectif pour les joueurs, c'est soit de buter Jason, mais ça, c'est très compliqué.
Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai vu des vidéos de gens le faire, mais visiblement, c'est un exploit.
Faut pas arrêter de le bananer, faut prendre toutes les armes qu'il y a sur le camp. C'est faisable. Mais les vrais objectifs sont soit de faire marcher la voiture ou le bateau,
se barrer. Il faut amener la voiture, batterie, clé, essence. Voilà, et quand on arrive avec ces objets, déjà, on a une chance sur deux de se faire zigouiller en route, parce que tout ça a été éparpillé au hasard sur la carte. Et une fois qu'on arrive, il y a un QTE, un peu, un petit mini-jeu de.
A du mal à démarrer, bien sûr, parce qu'on est dans Vendredi 13.
Donc évidemment, la voiture tombe en panne, ou alors on se retrouve. Moi, j'ai eu des scènes énormes.
Même quand elle roule, elle cale.
Ou alors on se retrouve en face de Jason qui fait un grand coup de hache dans la voiture qui explose, et là, il faut se sauver, ou alors.
Ou la redémarrer. Mais en fait, il y a d'autres solutions. On peut appeler la police, falloir trouver.
Ça prend 5 minutes, donc là, il faut trouver de quoi l'appeler, la police.
Il faut la retrouver à l'entrée du camp.
Et là, on entend la sirène qui arrive, donc la police est sur place, mais là, on a 4 minutes. Enfin, il faut 4 minutes pour qu'elle arrive, et après, il faut la trouver. Il faut trouver la bonne sortie, etc. Et en général, le joueur qui joue Jason connaît la sortie, donc il se met en porte-à-faux et il attend les joueurs en sachant qu'ils vont arriver vers la police.
Vu qu'on joue en 1 contre 7, le joueur qui joue Jason a des pouvoirs spéciaux. Il peut se téléporter à un endroit sur la carte.
Ça, c'est très
énervant. Il peut courir, il peut aller dans des séquences où il va très très vite pour choper un mec qui s'enfuit.
Une espèce de projection aussi, où il voit très vite.
Il sait localiser où sont les moniteurs. Et en face, on va plus vite, mais on est beaucoup moins fort. Et si on se fait attraper, c'est compliqué, c'est très vite compliqué.
On a une touche pour essayer de se sauver, mais en général, ça se passe pas très bien.
Et puis surtout, en fait, c'est qu'on devient plus faible avec la peur.
Oui, en fait, il y a un système.
En fait, plus on a peur, plus on voit Jason.
Dès qu'on voit un cadavre,
il y a une jauge qui monte. Et puis quand on commence à être un peu terrifié,
le champ de vision se réduit.
Et donc il y a une sorte d'équilibre comme ça entre d'une part un groupe de 7 et d'autre part un joueur qui est assez fascinant.
C'est vrai. Alors au début, on est un peu largué. Mes premières parties, je jouais comme la plupart du temps, on joue un moniteur. J'étais vraiment largué au début. On comprend pas trop les objectifs. Il faut vraiment prendre ses marques. Et c'est vraiment au fil des parties qu'on commence à comprendre. On cerne mieux donc les objectifs pour redémarrer la voiture.
Parce qu'on est largué.
On est largué
dans le jeu.
C'est vraiment
débrouillard. Il y a pas
de tutoriel. Quand tu recommences, les objets sont au même endroit.
Non,
c'est aléatoire.
C'est au hasard, la voiture bouge, etc. Il y a 3 cartes, si je dis pas de bêtises, 3 cartes différentes. Donc, ça demande pas mal de temps pour. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'on retrouve l'ambiance des films en termes d'échange avec les joueurs. Enfin, très vite, on se retrouve à s'échanger, de dire, toi, tu t'occupes de la voiture, vous avez les clés, machin. Enfin, il y a vraiment un système.
Tu leur parles comment
On se parle. En direct, en audio, en fait. Tu peux échanger comme ça. Et du coup, on retrouve vraiment ce stress de vite on fait des petites équipes, on se suit, on essaie de voir un petit peu ce que font les autres.
Est-ce que tu cries ?
Ça m'est arrivé. Vraiment, j'ai eu. Non, peut-être pas du. Non, j'ai pas crié, mais.
N'aie
vraiment...
pas honte, n'aie pas honte, tu sais.
Non, mais j'assume. Non, mais il y a des moments de stress. Moi, je me rappelle d'un moment d'anthologie où on était à 4, on avait réussi à refaire démarrer la voiture. Donc, on rentre en vue subjective dans la voiture, ouais. On se retrouve vraiment à 4 dans la bagnole à se regarder. Bon, on part. Il y avait un type qui conduisait, mais mal, parce qu'au début, bah, on a du mal à diriger la voiture, donc il se prend un arme, il repart. Et là, Jason qui arrive, qui nous explose la voiture. Enfin, il y a des vrais moments comme ça de tension et on retrouve vraiment cette sensation de. Ouais, d'être pourchassé, quoi. Il y a vraiment ce côté.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette sorte d'équilibre général qu'ils ont réussi à trouver très peu de temps après la sortie du jeu, finalement, parce que ça s'est sorti un peu buggé, mais quand même.
Ouais, il y a, bah, y a une
des trucs où, par exemple, on peut, quand on est moniteur, on peut sauter par la fenêtre
et
si Jason arrive et Jason ne peut pas. Donc il y a une sorte de déséquilibre.
Ça, okay.
Mais si on saute, par exemple, du premier étage. On se pète l'épaule, donc on va beaucoup moins vite. Donc là, Jason, il descend les escaliers tranquillou, et puis il arrive, et puis il te chope. Enfin,
Lui, il casse les arbres. Par contre, il peut casser les murs hein, avec sa hache. Il peut péter certains murs, il les casse, il traverse une paroi.
Alors, à noter quand même que Friday the 13th arrive après Dead by Daylight, qui est sorti lui en 2016 et qui vient d'arriver ou qui arrive maintenant sur console Xbox One et PS4. Dead by Daylight, c'est exactement sur le même principe. Je crois qu'on est à 1 contre 4 ou 1 contre 3. Mais avec voilà, ce truc asymétrique d'un monstre et des survivants. Et franchement, on est sur en plus un genre qui correspond énormément à ce type de jeu qui se regarde en streaming,
d'ailleurs,
dans des parties sur Twitch, sur YouTube et tout ça. On est sur
attention comme dans un film. Voilà. Vivement les lunettes là pour.
On passe son temps à regarder. C'est même quand on se fait tuer, on a une chance de pouvoir respawn dans le rôle d'un personnage qui est appelé à la rescousse, qui arrive avec un fusil à pompe, mais qui a qu'une balle hein, d'ailleurs. Enfin, il a une balle dans son flingue. Faut pas se louper.
Comme dans Shining.
Mais du coup, on passe pas mal de temps à regarder quand on est mort. On regarde les autres joueurs, mais c'est rigolo. Regarder parce qu'on les voit comment voilà ce qui leur arrive etc. Mais il y a pas mal de petites subtilités comme le fait que Jason donc se repère au son où elle a peur. En fait il y a des halos quand on joue Jason, il repère les joueurs comme ça. On peut créer des leurres en mettant en route la radio par exemple. Donc lui ça va l'attirer parce qu'il y a un son. Ça va l'attirer alors que c'est qu'une radio. Donc ça peut perturber le joueur qui joue Jason. Et on peut s'amuser comme ça à compliquer sa tâche.
Énormément d'éléments de gameplay, c'est bien pensé.
C'est pas mal. Donc a priori, donc d'après ce que j'ai vu, l'avenir, donc parce que le jeu va continuer à avancer, il y a un mode solo qui doit arriver. Qui est prévu, donc un mode solo qui permettra de jouer Jason contre des bots et des choses comme ça. Et puis, il y a peut-être des pistes sur ce qui arrivera par la suite. Il y avait des paliers sur Kickstarter qui n'ont pas été atteints. Je crois qu'il y avait un niveau Jason X, donc dans l'espace. Je ne sais pas si vous avez vu le film.
Je crois que c'est un truc tout
nul. Non,
tout nul, c'est avec quoi ?
Non, c'est dans l'espace, dans l'espace spatial. Et puis, il y a aussi peut-être la piste d'un niveau dans New York, parce qu'il y a un épisode de Jason dans New York où il sortait un petit peu de la forêt et... Donc voilà, c'est peut-être des pistes pour éventuellement le futur de ce jeu. Mais en tout cas, moi, je trouve que...
C'est une belle surprise. Hein,
et la musique joue beaucoup. On a vraiment les pistes des films. Et puis le son, quoi, la fameuse respiration de Jason qu'on entend.
Et surtout, en fait, c'est ça, quand t'es moniteur, mais on finit là-dessus, mais quand t'es moniteur, comment est-ce que tu sais que Jason arrive ?
Les petites zébrures
et la musique.
Ah ouais.
Et quand tu entends la musique un peu flippante, c'est que Jason est dans le coin.
Ton cœur monte.
Ah bah ça, c'est trop bien.
C'était Friday the 13th, je crois, une trentaine d'euros sur
40,
PC.
Ah, 35-40.
Ah oui, 35-40. Sur PC, pour l'instant, en
et
tout
Xbox
cas.
Xbox One et PS4 aussi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, je pensais que c'était console.
D'accord, ok. C'est fini cette semaine, cette avant-dernière émission de la saison. Merci, hein, monsieur Fell.
De rien, ce fut un plaisir.
Mais c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, mon cher monsieur Fell ?
Si je me souviens bien, il faut que je parle d'un truc que j'ai fait récemment. Et alors, ça tombe bien, j'ai terminé il y a quelques jours, là, sur Netflix, la série 3%. Vous avez regardé 3% ?
Non, je n'ai pas regardé.
Alors, c'est très étonnant. C'est une série brésilienne. Oui. Donc déjà, il y a une adaptation, c'est 8 épisodes, je crois. Il y a une petite adaptation parce qu'il parle brésilien, enfin donc portugais. C'est un truc un peu futuriste. Le premier épisode, c'est un peu surprenant parce que c'est pas Hollywood quoi. Hein. Oui. Donc tu plonges. Enfin moi j'ai plongé sur l'ensemble des. Je pouvais plus m'arrêter en fait. Je pitch ou pas le propos ?
C'est une dystopie sur les inégalités sur.
Ouais c'est ça. C'est-à-dire en gros c'est un monde futuriste. Alors c'est une grande favela en tout cas. Ça commence dans une grande favela et tous les ans il y a ils appellent ça le processus qui est organisé pour sélectionner 3% des jeunes de 20 ans pour voir, au milieu de tous les jeunes de 20 ans, les 3% qui vont être capables de vivre par-delà, on ne sait pas quoi encore, dans un endroit où il y a à manger, à boire, t'es soigné, etc. Et donc, tu suis une bande de jeunes qui va passer les étapes. Genre, je ne vous spoil pas, rien. C'est juste, c'est très, très bon. Enfin, moi, j'ai trouvé, le propos est extrêmement intéressant. C'est rigolo comment c'est réalisé avec, en fait, probablement...
C'est une prod Netflix hein, quand même.
Ouais, bon, bah, ouais mais bon, je pense pas qu'ils donnent les mêmes sous à une prod Netflix américaine qu'une brésilienne ou tu vois. En France, ils ont produit Marseille, non, c'était ça ?
C'est ça.
Voilà, tu vois, c'est... Voilà,
c'est
Netflix, c'est un gros nom. Puis après... Mais en tout cas, c'est surprenant. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. 3% sur Netflix.
D'accord. Patrick ?
Moi, je suis allé voir le film Wonder Woman. Donc, c'est la dernière itération de l'univers DC Comics. C'est plutôt pas mal. Je trouve que l'actrice principale fait le job. Même si je vous cache pas qu'en rentrant chez moi, je me suis remis un épisode de la série des années 70 parce que
non mais en grande nostalgie.
Non mais ouais, j'avoue. En fait, il me manque ce côté pulp qu'avait la vraiment assumé parce que voilà, moi j'aime bien les super-héros, mais je trouve que cette série des années 70 avait un côté pulp assumé, complètement barré, et finalement qui correspondait bien aux super-héros. Là, le film Wonder Woman est plutôt bien, mais il manque ce côté un peu fou. Enfin voilà, je trouve que c'est. Mais on va dire que c'est vraiment le haut du panier du côté DC pour l'instant. Donc voilà, c'est plutôt à voir. Okay. Plutôt réussi.
Moi j'ai vu. Alors c'est une prod de Disney, je crois qu'il y a 2-3 ans. Mais c'est, voilà, c'est ça d'avoir des enfants. Donc voilà, c'était. Mais c'est Vaiana ou Moana, je sais pas. C'est et en fait, c'est vachement sympa. En fait, c'est chez les Maoris. C'est sur la mer et tout ça. Et avec l'héroïne, l'héroïne qui est pas du tout princesse. Et ça fait du bien, les héroïnes pas du tout princesses chez Disney, surtout quand il y a la Reine des Neiges à côté. Et que la Reine des Neiges, quand même, on finit par comprendre, par apprendre cette chanson par cœur. Et c'est. C'est compliqué. Et après, ça reste dans la tête en plus et tout ça. Donc voilà, Vaiana, je crois que ça s'appelle. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt très très sympa. Et j'ai trouvé j'avais le titre. Là.
Ah oui,
t'as vu ? T'as vu ?
Non, c'est ton truc que t'as regardé.
Ouais, ouh, il y a des progrès. Bon, merci. Et la semaine prochaine, c'est la dernière. Et ce sera sur No Life, sur Libération et sur les internets. Encore merci.
De rien, ça
et
me
à très
plaisir.
Vite, on refait ça très vite hein, quand même.
Ah bah oui.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.